Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle semaine d'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
France 2 fait un choix assez remarquable qui n'est ni celui de l'émotion ni celui de la peur. Autant dire qu'on maintient ici à distance les ingrédients de l'audience. Demain, nous serons le 13 novembre, anniversaire d'un attentat qui ensanglanta Paris. Soirée spéciale, évidemment, ni racontée du point de vue des victimes, ni consacrée aux tueurs. France 2 préfère vous raconter 40 ans de stupéfaction, d'engagement, de réussite et d'échecs cuisants. L'histoire secrète de l'antiterrorisme en France. Juges, grands flics, patrons du renseignement et des unités d'élite témoignent sur ces dossiers épineux qui disent tout autant l'état du monde que celui de nos législations et de nos services spécialisés, parfois totalement incapables de faire face, mais qui se sont adaptés.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Boualem Ben Saïd, membre du GIA, organisateur des attentats qui ensanglantèrent la France au début des années 90, il y a donc presque 30 ans.
Lorsque Ben Saïd est amené dans les locaux de la 6e de CPJ, il dit « Ok, j'ai compris. Moi, j'ai perdu. Dans 6 mois, 1 an, 10 ans, d'autres viendront. On est chez nous ici. C'est comme ça. Vos femmes porteront le hijab. »
La menace extérieure qui deviendra petit à petit une menace intérieure, un mélange de revendications géopolitiques et de postulats religieux ou idéologiques déjà au début des années 90. Bonjour Patrick Rottmann.
Bonjour.
Documentariste d'histoire et de politique, oui, ceci est une réflexion très politique que vous menez dans ce film en deux parties, diffusé demain soir sur France 2. À vos côtés, Vincent Nouzi. Bonjour Vincent.
Bonjour Sonia.
Journaliste d'investigation, vous avez mené cette enquête et coécrit ce film ensemble. Il sera donc diffusé en prime time. Alors, les années 80 d'abord, c'est le sursaut, c'est la sidération. La France ne comprend rien à ce qui lui arrive. C'est le début de votre film. Après 1982, après l'attentat chez Rosenberg, rue des Rosiers, la France découvre la menace terroriste moyenne-orientale et ne sait pas y répondre, car au départ, elle ne sait pas l'identifier. Vincent Nouzi ?
Oui, parce que c'est un terrorisme d'État qui est déguisé, soit via des mercenaires du terrorisme, que sont des personnages comme Carlos ou Abou Nidal, dont on parle dans le film, soit à travers des organismes qui apparaissent soudainement avec des noms bizarres. C'est le djihad islamique, c'est les aigles de la vengeance, comme dit l'un de nos témoins. Donc ce sont des façades qui cachent en fait des bras armés et qui cachent des commanditaires, en l'occurrence des Syriens, des Iraniens, c'est la période de ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Et face à cela, la France est sidérée parce qu'elle ne croit pas que des États soient capables de lui faire du mal comme ça sur son territoire. Et c'est cet état de sidération et c'est aussi une désorganisation complète. Des services. En fait, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de policiers spécialisés. Donc les enquêtes se font un peu vraiment de manière très improvisée.
Et puis Patrick Rottmann, il y a aussi décembre 85, l'attentat des grands magasins. D'ailleurs, cette une de Libération que vous ressortez, le Père Noël est une ordure. Aujourd'hui, on n'imaginerait plus du tout un grand quotidien titré comme ça suite à un carnage. Il y a aussi la thèse du tueur isolé, déséquilibré. On ne veut pas affoler la population, racontent les témoins de l'époque.
Oui, c'est le juge Marceau qui est en charge de ce dossier, qui dit effectivement que non seulement on ne veut pas affoler la population, mais en fait, on lui ment. C'est-à-dire que la brigade criminelle le met sur une fausse piste pour pas que, justement, il aille vers la piste du terrorisme moyen-oriental. Mais là, on rentre dans cette succession absolument incroyable d'attentats tous les deux jours, tous les trois jours. Et, ça pète toute l'année 86. Et là, on voit qu'effectivement, notre système judiciaire et notre système policier et des services de lutte contre le terrorisme est complètement désarmé. Ils ne comprennent pas d'où viennent les attentats. Ils le disent eux-mêmes dans le film. Parce que j'insiste, l'intérêt de ce film, il y en a beaucoup, mais l'intérêt de ce film, c'est de faire raconter cette histoire par ceux qui l'ont écrite, par ceux qui l'ont
d'ailleurs,
menée.
Il y a des dossiers qui sont encore très difficiles à ouvrir. Hein. On voit bien, il y a une séquence formidable dans votre film où chacun des témoins marche sur des œufs ou sur des braises, on ne sait pas trop. Si l'un vous a dit ça, alors Je ne peux pas l'affirmer, je ne peux pas le contredire, mais disons que c'est vrai. Enfin, on sent bien qu'il y a encore des dossiers extrêmement...
Il faut dire que c'est une vraie révélation du film, c'est que sur l'affaire de la rue des Rosiers, l'attentat de la rue des Rosiers, la brigade criminelle et le Jubrière qui commence sa carrière identifient très vite le commanditaire qui est Abou Nidal, terroriste palestinien, et pendant qu'ils le recherchent, l'ADST... et c'est là dans le film, son patron de l'époque, Yves Bonnet, qui le raconte, est en train de négocier avec le même Abou Nidal. Donc ses adjoints de l'époque, qui ont pris ses contacts, nient évidemment cette participation.
Alors il faut attendre 1986 donc pour que soit constitué un parquet spécialisé. Le juge Alain Marceau en prend la tête.
Au départ, nous avons commencé à 4 magistrats du parquet et 4 ou 5 juges d'instruction. Nous étions tous très liés. On vivait presque ensemble. On courait le dimanche matin... On travaillait ensemble la semaine, on échangeait de manière très informelle. Il nous arrivait de nous téléphoner en pleine nuit sur une idée. C'était devenu une famille qui avait en charge finalement le poids de cette lutte antiterroriste dans ces années de plomb.
Ces années de plomb, vraiment, je le dis pour les gens de ma génération, moi j'ai 43 ans, tout ça c'était quand j'étais enfant, et de redécouvrir qu'on puisse parler de la France avec ce qualificatif qui pour moi a été celui de l'Italie, les années de plomb, c'est vraiment un choc. Alors dans ces années-là, le FIS, le Front Islamique du Salut, a été légalisé en 89, il a ses relais en France, vous l'expliquez très bien, le GIA a été créé par des Afghans démobilisés, il y a eu le coup de force des généraux en 92... Et évidemment, petit à petit, monte le reproche fait à la France d'entraver ses mouvements. Tous les signaux commencent à clignoter sur notre territoire. Et là, va avoir lieu un gigantesque coup de filet. 90 personnes ramassées, arrêtées, interrogées. Alors évidemment, les services prévoient que l'engrenage ne s'arrêtera plus à partir de ce moment-là. Mais en même temps, ça y est, on commence à s'organiser, on commence à pouvoir recueillir des informations, Vincent Nouzy.
Oui, on est passé d'abord du terrorisme d'État à un terrorisme islamiste qui vient d'abord d'Algérie, puis ensuite qui prendra une dimension internationale. C'est Al-Qaïda, etc. Mais pour ce qui concerne l'Algérie, effectivement, les services commencent à se méfier, parce qu'ils voient bien qu'il y a des menaces directes qui sont adressées par le GIA, donc le groupe islamique armé algérien, contre la France, qui est soupçonnée de soutenir le régime algérien. Et donc, on a ces menaces. Donc, ils commencent à faire des coups de pied dans les fourmilières pour essayer de savoir qui est qui, tout simplement. Donc, les renseignements généraux, l'ADST, commencent à être un peu mieux organisés que dans la vague précédente.
Et commencent à travailler ensemble. On arrive en 94. Là, c'est vraiment un moment très fort à revoir en télévision. C'est le détournement de l'Airbus d'Air France qui va, après négociation, se poser à Marseille, Patrick Rothman, 170 otages, sains et saufs au final. Vous avez donc fait parler Denis Favier, le patron du GIGN. Il avait 35 ans à l'époque.
Tant qu'on n'a pas rencontré le choc de ce niveau-là, on ne s'imagine pas ce que ça peut être. Ce choc, c'est la violence, c'est le bruit, le feu, l'obscurité. Et c'est des moments de silence assourdissants où on ne sait pas où on en est. Ce sont les tirs de grenades qui déstabilisent à la fois par le souffle et par l'effet sonore.
Scène de guerre sur le tarmac à Marseille en 94. Évidemment, le patron du GIGN, il a 35 ans, mais plus tard dans le film, dans la deuxième partie, on entendra parler le patron du RAID, c'est-à-dire ces hommes qui ont dirigé des assauts historiques. Ils sont marqués à vie par ces moments-là.
Oui, dans le film, donc il y a Denis Favier, patron du GIGN. Plus tard, il y a Emery Daudkloc, qui est le patron du RAID et qui assume en fait le face-à-face avec Mera. Je pense que ce qu'il raconte dans le film et ce qu'on a monté dans le film de cet affrontement, de cet assaut qui a duré 30 heures et la manière dont il le raconte, qu'il n'avait jamais raconté, je pense que c'est un moment extrêmement...
Alors, il y a le RAID face à Mera et puis il y a aussi l'assaut de l'hypercachère qui arrivera ensuite.
Après, il y a le patron du RAID qui a succédé à Daudkloc et qui est donc Fauvergue et qui lui raconte cet assaut de l'hypercachère, comment ils y sont pris, les problèmes, parce qu'il y avait au même moment évidemment l'assaut contre l'imprimerie où étaient les frères Kouachi, et donc ce sont des moments où ces hommes ressentent, le disent eux-mêmes d'ailleurs, à la fois des moments d'excitation, d'exaltation et en même temps de peur. Et je pense que le récit que fait Fauvergue avec ses hommes quand il rentre dans le Bataclan et qu'il raconte dans les téléphones portables des morts qui sonnent parce que la famille les appelle, l'odeur, du sang et qui doivent aller de l'autre, ou traverser cette fosse pour aller jusqu'à la Seine. Enfin, je raconte pas tout parce que vous avez les gens vont voir le film, mais ce sont, je pense, des moments d'une intensité
rare. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que vous enchevêtrez très bien le récit politique parce que c'est une histoire de la législation, une histoire des lois qui vont évoluer, et en même temps c'est un récit humain. Je reprends le fil. Juillet 95, massacre du RER à Saint-Michel, suivi d'une autre explosion place de l'Étoile, d'une voiture piégée face à une école juive. Et là, on assiste à une forme de guerre des polices. Tout le système est paralysé et ça va susciter une extrême colère chez Jacques Chirac, Vincent Nouzy.
Oui, le 10 septembre 95, Chirac menace, il convoque tous les chefs de service et il menace de sanctions si les services ne coopèrent
ne
pas.
Ne collaborent pas les uns avec les autres.
Il faut dire qu'il y a la PJ parisienne, la PJ nationale, la PJ lyonnaise, les RG, la DST, tout le monde, en fait, tire dans son sens, et personne ne met les informations sur la table. Et donc, l'histoire de l'école juive de Villeurbanne, c'est un attentat qui fait quelques blessés, mais qui, à 10 minutes près, aurait pu être peut-être le plus gros attentat que la France ait connu, c'est-à-dire le timer de la bombe n'a pas marché. Donc, 10 minutes plus tôt, tous les enfants de l'école juive étaient là.
Étaient soufflés. Et pourtant, dans la période qui va suivre et qui va durer plus de 10 ans, en fait, qui est la fin de la première partie et le début de la deuxième partie de ces deux films, sous la férule du juge Jean-Louis Bruguière et puis ensuite de son successeur, au début des années 2000, les services français, Patrick Rothman, sont devenus d'une très grande efficacité. Et en fait, au début des années 2000, le territoire français est préservé. Il y a un vrai savoir-faire en matière de prévention et de détection.
Oui, c'est ce qu'on raconte dans le film, c'est donc cette alliance entre les services, en particulier la DST et la section antiterroriste du parquet, avec le juge Bruguière, mais d'autres comme le juge Ricard, etc. Et qu'ils travaillent dans une telle osmose qu'ils ont une très grande capacité d'intervention facilitée par la loi de 1996 qui permet d'anticiper, c'est-à-dire d'arrêter des gens qu'on suspecte de préparer des attentats. Ce que la loi avant ne permettait pas. Et grâce à cette adaptation de la loi, des dizaines d'attentats vont être déjoués. Quand vous dites la France n'a pas connu d'attentats, c'est vrai, mais il y a eu des projets d'attentats qui ont été arrêtés. Dans le film, on raconte ce projet d'attentat insensé au marché de Noël de Strasbourg en 1er janvier 2000, où le groupe est arrêté juste avant et il s'apprêtait à faire sauter le marché de Noël. De même que l'attentat qui était prévu au moment du Mondial 98.
De la Coupe du Monde de
nous,
football.
Pour nous, c'est tous des souvenirs de foot, de joie, d'allégresse. Il y avait un attentat extrêmement par une équipe internationale qui était prévu. Donc, effectivement, les services ont été d'une grande efficacité.
Ils ont mis en place des collaborations entre pays. Ça, vous le racontez
petit
très bien.
Petit à petit.
Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous racontez la surdité des Américains, des services secrets américains qui n'ont absolument pas voulu.
Ça, c'est une histoire incroyable.
Incroyable, ouais. Que vraiment il faut regarder demain soir. Incroyable, la surdité des Américains face aux alertes des Français avant le 11 septembre. Et puis, il y a ce virage décisif. Nicolas Sarkozy, sa responsabilité sera lourde, en tout cas c'est la thèse de votre film, veut mettre fin à la rivalité qui est quand même toujours sous-jacente entre les RG et la DST. Il veut faire des économies aussi, supprimer des effectifs, et du coup on fusionne les services. Le problème, c'est que la DST va prendre la main. Vous entendrez tour à tour le juge Trévidic et Roger Marion.
La réforme de 2008, si c'était en soi une bonne idée, elle a eu malheureusement pour conséquence déraciner et d'enlever du terrain les capteurs que constituaient essentiellement les officiers et les effectifs des renseignements généraux.
Mais on le fait alors que c'était le moment où il fallait, au contraire, booster les RG et tout ce qui était du renseignement sur le terrain très localisé.
La disparition du RG est une bêtise. Les RG, effectivement, avaient tout leur sens, dans la mesure où c'était un outil de renseignement de proximité.
On se retrouve avec, effectivement, moitié moins d'effectifs, clair. Et il n'y a plus une capacité de veille suffisante, si ça nous revient en boomerang, très vite.
Et le boomerang sera sanglant. Il porte un nom et un visage. 2012, Mohamed Merah. Énorme échec de la centralisation du renseignement, en fait. C'est la thèse de votre film,
oui,
Vincent
Nosy. Il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup de failles dans cette histoire que l'on raconte vraiment dans le détail. D'abord,
c'est
parce qu'il y a l'enquête,
aujourd'hui.
Il y a l'enquête, oui. Il y a la traque et il y a l'assaut. Mm. Et puis après, il y a les leçons. Et c'est très intéressant parce que on essaie évidemment de raconter les histoires, mais aussi de faire en sorte que les témoins finalement eux-mêmes nous expliquent les leçons et les échecs qu'ils ont vécu.
Et là aussi, humainement, moralement, ils portent.
Et là, on voit bien qu'il y a
ces erreurs.
Il y a certains des témoins, des grands policiers ou même Bernard Squarcini qui était à l'époque le patron du renseignement intérieur, qui d'abord évidemment il peut nommer un certain nombre d'échecs entre la PJ et son service en amont dans le renseignement. Ce Mohamed Merah a été quasiment recruté comme une source. Et là, pour la première fois, Bernard Squarcini le reconnaît. Mais il y avait un désaccord
entre
Paris.
On a essayé de le retourner. D'en faire
c'est
un informateur.
Une
et le juge Trévidic dit, attention, les services locaux à Toulouse, eux, ils savaient qu'on avait affaire à un déséquilibré.
Absolument.
Sur le plan psychiatrique.
Il y a un désaccord.
Jamais on n'aurait pu lui faire confiance.
Donc il y a eu effectivement un désaccord entre les services de Paris et les services de Toulouse. Et c'est plutôt... et c'était un mois avant les attentats. Donc cette tentative de retournement et de recrutement comme source, elle a lieu vraiment quelques semaines avant qu'il ne passe à l'acte. C'était un as de la dissimulation. On voit des images terribles de ce Mohamed Merah qui a l'air d'être en vacances au ski quelques semaines avant de passer à l'acte.
Mohamed Merah,
mais
à la montagne, je vous avoue que la vidéo, elle est...
Au-delà de son histoire à lui, c'est évidemment révélateur de failles et de failles d'un système qui, dans le fond, pendant très longtemps, a protégé, plutôt pas trop mal, et puis qui, tout d'un coup, montre ses limites absolument cruelles.
Gigantesque dysfonctionnement, Patrick Rothman. Évidemment, toute la fin du film devient extrêmement complexe parce que la menace a évidemment augmenté de manière exponentielle avec les départs massifs vers la Syrie. Mais finalement, ce qui est de plus en plus complexe, ce sont ces terroristes potentiels démultipliés sur notre propre territoire, extrêmement difficiles à détecter. Ça va finir par Nice, Trèbes, Saint-Étienne-de-Rouvray, c'est-à-dire des gens qu'on ne pouvait pas voir, des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Il y a là aussi un immense échec, celui d'avoir échoué à prévenir les attentats de 2015, alors que les frères Kouachi, alors qu'Amédi Koulibaly était déjà fiché, déjà arrêté, déjà surveillé, et pourtant plus rien après 2014. Ça aussi, ces questions-là, elles sont posées dans le film.
Oui, c'est, je pense qu'à chaque fois dans le film, on raconte l'histoire de terrible de Charlie, l'assaut, etc. Et après l'événement, après les faits, on a les acteurs de cette histoire qui en tirent les leçons. Ouais. Et c'est tout à fait exact qu'il y a une faille du système pénitentiaire parce que et du système de surveillance. Les frères Kouachi étaient absolument repérés depuis très longtemps, surveillés. On montre dans le film que l'un des frères Kouachi était repéré depuis 2005 avec la fameuse filière des buts de Chaumont où ils organisaient des départs pour la Syrie. Et ça n'a pas empêché finalement qu'ils puissent passer à l'action d'une manière absolument incroyable.
Et le procureur Molin, ce procureur de Paris, qui dit mais ce sont des individus qui avaient payé leur dette à la société. Donc, jusqu'où peut aller la justice? Jusqu'où peut aller l'État dans la surveillance d'un individu une fois qu'il a purgé sa peine?
Ça montre bien toute la complexité de cette lutte antiterroriste, parce qu'effectivement, c'est des gens qui avaient été en prison, qui avaient été surveillés, et jusqu'à quand on continue de mettre des gens sous surveillance? Est-ce qu'il faut créer des services spéciaux? C'est très compliqué. Et je crois que le film sert aussi à ça. Il a une visée pédagogique, c'est de montrer que c'est pas si simple, c'est pas noir et blanc, c'est extrêmement complexe ces histoires. Il n'y a pas de science exacte. Un de nos témoins dit on n'a pas de détecteur de mensonges pour savoir qui, à quel moment, etc. Donc c'est extrêmement difficile et c'est faut faire toucher aussi les doigts de cette complicité et de cette difficulté que ce film a été fait.
Merci beaucoup à tous les deux, Patrick Rothman, Vincent Nosy. Histoire secrète de l'antiterrorisme, c'est la soirée de France 2 demain. Bonjour Ali Rebeilly.
Bonjour Sainte Villers.
Alors, on parle inflammation.
Exactement, donc on s'intéresse aux maladies inflammatoires chroniques, douloureuses comme la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies chroniques inflammatoires du côlon comme la maladie de Crohn, l'asthme, la néphrite, le psoriasis, le lupus. Nous attendons toutes vos questions sur les maladies inflammatoires chroniques au 01 45 24 7000.